Sur les 100.9 FM, l'heure de la grande édition de Radio Ndekiluka en français sango avec Eda Lotindiko. Eda, bel après-midi.
Bel après-midi, Bintou, et bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée, les titres. La ville de Birao dans la Vakaga toujours calme après des affrontements interethniques qui ont opposé jeudi trois groupes au village Kapao situé à 7 km de la ville. Plus de 2000 motos désormais en règle, un bilan du ministère des Transports et de l'Aviation Civile après l'opération de saisie de ces engins qui n'ont pas de papier. Au sommaire également, 129 éléments de forces de sécurité intérieure en mesure de bien assurer leurs fonctions. Ils ont bouclé hier une formation d'un mois réalisée par l'Union européenne. Football, Stade Centrafricain Espoir Club de Bégois, c'est l'affiche de cet après-midi au Stade Batimi Boganda. Match comptant pour la 13e journée du championnat de la Ligue de Bangui en première division. Une fois de plus, bonjour, nous sommes deux pour la présentation de cette édition. Jean-Eudes Bagali, bonjour.
Je suis Dalotine Diko, bonjour à tous nos auditeurs.
Ouvrons ce journal avec ce calme qui règne depuis hier à Birao dans la Vakaga après des affrontements interethniques qui ont opposé jeudi trois groupes au village Kapao situé à 7 km de la ville.
Selon des sources locales, des habitants de villages environnants de Birao continuent de venir en masse au centre-ville pour trouver refuge. Toutefois, les forces internationales et nationales effectuent des patrouilles dans la ville de Birao.
Le bilan provisoire de ces affrontements fait état de 3 morts et 7 blessés. En réaction à ces violences à Birao, l'Union africaine, la CEAC et la MINUSCA, garant et facilitateur de l'accord de paix du 6 février 2019, mettent en garde le FPRC et le MLJC.
Réaction faite dans un communiqué conjoint signé jeudi, ils indiquent que les commanditaires ainsi que les complices de violences à Birao répondront de leurs actes devant la justice.
Dans la suite de cette édition, plus de 2000 motos désormais en règle après les opérations de saisie lancées par le ministère des Transports et de l'Aviation Civile.
Évaluation faite hier à Bangui en présence du ministre des Transports Arnaud Djoubaï Abazen et des représentants des syndicats de taxi-moto et taxi-bus selon Nono Wessenselas Nguelukumon, directeur général des transports de surface. Cette opération va être intensifiée la semaine prochaine afin de contraindre les récalcitrants à se mettre en règle.
Nono Wenceslas Nguelukumon avec Igor Djaskasenapaye.
Nous venons de sortir d'une grande réunion présidée par le ministre des Transports et de l'Aviation Civile en présence des syndicats de taxi, bus, taxi, moto, police et police municipale. En conclusion, nous avons pris plus de 2000 motos déjà qui sont immatriculées. Et beaucoup de personnes n'ont pas manifesté pour venir changer leur titre de transport. C'est pourquoi lors de cette réunion, nous avons décidé, ensemble avec les syndicats de taxis et bus, de relancer le contrôle le lundi prochain. Et ça serait un peu dur. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'ont pas manifesté pour venir changer leur titre au moment de grâce que le ministère a accordé, lorsqu'on va commencer à faire le contrôle, je pense qu'ils auront des pénalités à payer par jour, ça sera 2000 francs. Et lorsque les motos seront parquées au ministère de Transport pendant 2 semaines, nous allons procéder à la vente aux jachères parce que les gens payent les motos pour utiliser, mais ils ne veulent pas être en règle avec l'État.
Autre fait, Jean-Eudes, 129 éléments des forces de sécurité intérieure, désormais capables d'exercer leur travail avec professionnalisme. Ils se sont séparés ce vendredi après une formation d'un mois sur les méthodes professionnelles du travail et le secourisme.
Oui, Eda, cette remise à niveau a mobilisé quelques gendarmes, policiers, douaniers et agents des eaux et forêts. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée hier à l'école inter-état de douane de la CEMAC à Bangui en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne et quelques autorités du pays.
Ce projet appuyé par l'Union européenne s'inscrit dans le cadre d'appui au redéploiement des forces de sécurité intérieure et à la restauration de l'autorité de l'État en RCA. Christiane Yambelessio, gendarme de deuxième classe, majeure féminine de cette promotion, en dit plus sur cette formation.
Pendant cette formation, ce qui m'a beaucoup plus touchée, c'est dans notre module de la GTPI, geste technique professionnel. Cela m'a beaucoup touché et le secourisme aussi m'a beaucoup touché parce que c'est ce que je n'avais pas pu faire auparavant. Grâce à ça, maintenant, dans ma famille, je peux secourir une personne. Dans mon quartier, je peux secourir une personne. Sur la route aussi, je peux secourir une personne. En cas d'accident, de voiture, de motocyclette, à partir de ces actes, je vais les mettre en pratique dans mon unité. En mettant en pratique ce qu'on nous a appris, tout simplement. Mais cela nécessite des matériels. Par exemple, dans le secourisme, je ne peux pas secourir un individu accidenté à main nue, sans matériel, sans médicament. Sur la voie publique, avant de faire contrôle routier, premièrement, je dois avoir des menottes, des armes, des voitures à notre disposition pour faire la patrouille maximum dans notre localité. Donc, cela nécessite des matériels avant qu'on puisse les mettre en voiture.
Cette formation des forces de sécurité intérieure qui a pris fin hier s'est effectuée du 10 janvier au 14 février 2020. Le gouvernement centrafricain fait une évaluation à mi-parcours du RCPCA, ceci pour améliorer les conditions socio-économiques du pays à travers la mise en œuvre de ce programme.
Jeudi, certains ministères ont échangé avec les représentants de la Banque mondiale, le FMI, à l'agence et l'Agence française de développement sur les questions de la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité, la gouvernance, l'économie, l'eau et l'assainissement. Le point a été également fait sur ce qui reste à réaliser dans le projet.
Denise O'Brien, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, note une avancée dans les réalisations. Elle est au micro de Bonaventure Ngomba Katikiro.
La réunion est pour présenter les résultats du plan national de développement, ce qu'on appelle RCPCA. C'est pour voir quel est le progrès, quelle est l'évolution au niveau sectoriel, donc au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, le secteur rural, de voir où nous sommes dans l'exécution des différents projets. Je peux parler au nom des partenaires techniques et financiers que je représente. On a parlé de l'impact sur la population. Est-ce que la personne qui est dans le village, la communauté de Zemio ou de Birao, est-ce qu'eux, ils sentent une différence dans leur vie quotidienne? On se rend compte qu'il y a du progrès. C'est vrai qu'il y a du progrès. On voit une évolution positive. Mais on doit avoir plus d'investissements dans le sud-est et le nord-est du pays. On doit avoir plus de progrès dans certains secteurs. Et donc, le travail était vraiment axé sur la population. Je suis vraiment très satisfaite, encore une fois, tous les partenaires, au niveau d'engagement et leadership du gouvernement.
Dans ce journal également, l'Alliance pour la Renaissance centrafricaine ARC se préoccupe de l'implication des jeunes dans la démocratie en République centrafricaine.
Elle a organisé mardi et mercredi à Bangui une formation à l'intention d'une quarantaine des jeunes identifiés dans les premiers 7e arrondissements. L'objectif est de former ces jeunes sur la démocratie, le rôle des institutions républicaines et leur participation à la vie politique.
William Yagema-Wefio, coordonnateur de l'ONG Alliance pour la Renaissance centrafricaine, donne plus de précisions sur cette activité au micro de Maxime Lalaye.
Nous avons choisi de travailler avec les jeunes parce que nous avons constaté que malgré que les jeunes constituent la population majoritaire en République centrafricaine, mais ces jeunes n'impactent pas politiquement le pays, surtout dans le cas des choix des dirigeants. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans les institutions républicaines, c'est-à-dire les institutions politiques. Les jeunes ne s'intéressent pas aux partis politiques. Les jeunes pensent que la politique, c'est pour les adultes. Et après, ils se plaignent, alors que c'est eux qui devaient choisir les dirigeants de ce pays et les choisir en fonction de leur programme politique et qui peuvent être aussi en faveur des jeunes. L'un des buts de cet atelier de formation, c'est de mettre des connaissances sur la démocratie, faire connaître aux jeunes les institutions de la République, la présidence, le gouvernement, les ministères, qu'est-ce qu'ils font, et aussi pousser les jeunes à participer politiquement, c'est-à-dire à adhérer aux partis politiques. Les élections arrivent, les jeunes doivent se préparer.
Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Participation politique des jeunes aux élections en République centrafricaine ». Elle est appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. L'actualité, c'est aussi des jeunes centrafricains qui sont désormais initiés au commerce en ligne pour lutter contre la pauvreté et le chômage dans le pays.
Ils sont une centaine à prendre part deux jours d'échanges organisés lundi dernier à Bangui par Sierou Holding Group, une société chinoise nouvellement installée en Centrafrique. Faustin Modesti Zengagba nous en dit plus.
Ces jeunes venus de tout horizon de la capitale Bangui ont échangé sur les pertinences de la vente en ligne, ce nouveau système de commerce importé par Saerui, une société commerciale chinoise. L'objectif est de les amener vers l'indépendance financière à travers la vente des articles en ligne. Mélanie Biloua, modératrice de ces échanges.
La condition économique en Afrique n'est pas quelque chose à désirer. C'est pour ça que j'ai pensé venir avec Saerui à Bangui et sortir au moins 80% de jeunes, de vieux, de toutes les catégories de la pauvreté et du chômage. En fait, le e-commerce, c'est acheter et revendre en ligne à partir de notre téléphone Android et une bonne connexion Wi-Fi. à partir du laptop. En allant même faire un achat en ligne, on a un plus, on a un bonus. Et à part ce e-commerce, nous avons du marketing relationnel qui est d'amener quelqu'un et de gagner aussi son argent.
Pour Silus Travolta Amoda, un des participants, cette occasion leur permettra de sortir de la pauvreté.
L'État n'est pas en mesure de tout faire. Cette opportunité peut aider les jeunes, ça peut aider même les fonctionnaires, même les étudiants, même les élèves. Ça peut aider tout le monde et ça peut diminuer le taux de la pauvreté sur notre territoire.
La société Sairui Holding Group est une plateforme des hommes d'affaires asiatiques créée en 2008. Elle est arrivée à Bangui en décembre 2019 après quelques mois d'expérience au Cameroun, Nigeria et Ghana.
Merci à vous Faustin. Cap sur la ville de Nola où la population se dit honorée par la récente visite du ministre de l'Environnement et du Développement Durable Thierry Kamach dans la ville.
L'occasion a été offerte aux autorités locales de présenter les problèmes qui minent le développement de la région. Correspondance de Sosten Nangayombo.
Cette visite de quelques jours a permis à Thierry Kamach, ministre résident de la Sangambaéré, de constater lui-même les difficultés auxquelles la population est confrontée. Lors d'une réunion organisée lundi 10 février à la mairie de Nola, le maire Martin Doucène a étalé aux membres du gouvernement les problèmes récurrents, notamment le manque d'eau potable, d'électricité, de routes et surtout l'absence de ponts sur les rivières Mambéré et Kadéi. En réponse, le ministre a indiqué que le but de sa mission était de s'enquérir des préoccupations de la population et a indiqué avoir noté les doléances du maire. Il a déploré cependant le non-entretien des pistes et routes par les sociétés forestières, une activité inscrite dans leur cahier de charges. Selon Thierry Kamach, une décision est prise en commun accord avec le préfet de la Sangambaéré d'entretenir ses voies routières avant la fin de la saison sèche. Après Nola, le ministre a poursuivi sa tournée à Bilolo et à Nyanti, deux localités de la RCA situées à la frontière avec le Cameroun. Soutien Nangayombo, Nola, Radio Ndekeluka.
En sport, la construction des infrastructures sportives est de la responsabilité de l'État centrafricain. Une déclaration du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique à la presse nationale.
C'était hier au siège du comité national olympique et sportif centrafricain Senouska Bangui. Lors de son échange avec les médias, cette personnalité du milieu olympique a rencontré le président de la République Fossard Kanchtouadéra, le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre chef du gouvernement.
L'Algérien Mustapha Beraf, président de l'ACNOA, au micro de Bienvenue Bello.
C'est l'un des rares pays au monde où le comité olympique apporte un soutien financier aux fédérations. Les qualifications sont du ressort des fédérations, ne sont pas du ressort du comité olympique. Le comité olympique apporte son soutien, mais même son soutien, il est, comme je vous l'ai dit, budgétisé et valorisé en fonction des dispositions, des réalisations des athlètes. On a bien discuté avant-hier avec son Excellence, le président, et avec le président du Parlement, l'honorable, qui ont bien saisi la portée de la question et qui se sont engagés, qui nous ont promis de voir les choses avec le gouvernement pour trouver les réajustements nécessaires qui vont permettre de mettre en place une ligne budgétaire spéciale pour la préparation des athlètes au niveau des fédérations. Donc c'est déjà un grand pas, il y a une compréhension, il y a une volonté politique. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Mais moi je suis honnêtement très confiant dans l'avenir de ce pays.
Mustapha Beraf a quitté Bangui hier avec une objectivité en ce qui concerne l'engagement des autorités centrafricaines à soutenir le développement des sports en Centrafrique. Football, la troisième journée du championnat de la Ligue de Bangui en première division se poursuit au stade Barthélemy Bouganda.
À partir de 15h, le stade centrafricain croise Espoir Club de Bégoua. Demain, FC FDS recevra Castel Foot à la même heure. Hier également, je vous l'ai signalé, Astompette Moukaf, le leader du championnat, a malmené Red Star 4-1. Tempête Mokaf est désormais seul avec 4 points d'avance sur Olympique Réal de Bangui et les Anges de Fatima.
Football toujours, départ ce matin de la sélection féminine des Fauves pour le tournoi de l'UNIFAC en Guinée équatoriale.
Elles partent par la voie terrestre pour rejoindre la ville de la compétition. Selon les responsables de la fédération, la participation des filles est pour leur permettre de jouer et non pour chercher un trophée. Des actions seront engagées pour reconstruire l'équipe nationale à partir de moins de 15 ans, a dit le président de la fédération, Célestin Yanindi.
Le tournoi est prévu du 18 au 28 de ce mois en Guinée équatoriale. Football international en Angleterre, Manchester City est interdit de toute compétition de l'UEFA.
Le champion en titre d'Angleterre ne pourra pas jouer la Ligue des champions ni la Coupe de l'UEFA car il est accusé de ne pas respecter, je vous l'ai dit, le fair play financier. Dans un communiqué hier, le club a promis faire appel de cette décision.
Ainsi s'achève la version française de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne partez pas. La revue de presse à l'international avec Jean-Fernand Kouina.
La revue de presse de Radio Ndekeluka.
Au menu de cette revue, la politique et la sécurité. Alors, commençons par l'insécurité et bien entendu ses conséquences sur l'action humanitaire.
Le CICR réduit ses activités en Centrafrique, titre BBC. L'organisation caritative internationale a justifié sa décision par l'insécurité dans laquelle elle évolue en Centrafrique. Bruce Bieber, le chef adjoint de la délégation du CICR en République centrafricaine, a confirmé leur décision à la BBC. Pour des raisons de sécurité, le CICR a réduit certaines de ses activités humanitaires à Kakabandoro et dans la préfecture de Nanagubizi, dans le centre nord du pays.
Radio France Internationale, quant à elle, parle de Martin Zigeli empêché par les 3R.
Un député accuse un groupe armé de l'avoir empêché de circuler librement, titre RFI. Et ce média d'ajouter, malgré la présence de soldats des FACA, Martin Zigeli et ses amis ont donc décidé de rebrousser chemin. Une décision qui lui est restée en travers de la gorge. Ils m'ont chassé comme un malpropre avec 24 personnes de ma délégation, avec des soldats des FACA, s'indique-t-il. Ils nous ont humiliés et nous avons été obligés de repartir. Comment les populations peuvent aller aux élections? Comment les candidats peuvent circuler? Ils contournent le territoire, ce n'est pas possible. Une accusation qui ne passe pas selon les 3R. Ils auraient refusé tout simplement le passage aux 3 députés dans ce territoire sous leur contrôle. Même la MINUSCA ou les représentants du gouvernement préviennent lorsqu'ils doivent emprunter ce taxe à assurer le général CEO au Grenoble de Martin Zigeli.
La diplomatie est à retrouver, notamment avec la coopération militaire russe.
Moscou est en négociation avec les autorités centrafricaines pour installer une antenne du ministère russe de la Défense à Bangui. Quelle sera la mission des officiers qui y seront stationnés? La Russie, qui a démenti vouloir ouvrir une base militaire en Centrafrique, est néanmoins en pourparler avec les autorités de ce pays pour installer à Bangui un bureau de représentation du ministère russe de la Défense, a écrit Jeune Afrique.
Restons dans Jeune Afrique avec cette rencontre entre Diotodia et Déby.
Ce qu'ils, Idriss Déby Itno et Michel Diotodia se sont dit en N'Djamena Saint-Héro Jeune Afrique avant de se lancer dans ses analyses. L'ancien président centrafricain Michel Diotodia a été reçu par le président tchadien Idriss Déby Itno. Les deux hommes ont notamment évoqué le cas François Bozizé après avoir rencontré Faustin Archange Touadéra puis quitté la Centrafrique le 13 janvier. Michel Diotodia, l'ex-président centrafricain qui devait rentrer au Bénin, a fait un détour par le Tchad à l'invitation d'Idriss Déby Itno.
Jean-Fernand, merci pour toutes ces infos.
Merci Ghislain Dinakongoita. J'invite les internautes à faire un tour sur ces sites indiqués pour plus de précisions. Bonne lecture.
La revue de presse de Radio Ndekeluka.